Chapitre 2. Tout à la joie. Je rêve, je rêve, disait Ferdine, dont les yeux étaient néanmoins fort éveillés et brillants. Mais, ma petite May, rends-moi un service, pince-moi le bras jusqu'à ce que je crie, ou plutôt non. Si c'est un rêve, je serai folle de le faire cesser, car c'est bien le plus beau rêve que j'ai fait de ma vie. Veux-tu que je te pique avec une épingle ? Proposa May. Debout au milieu de la chambrette claire et jolie qui allait être leur nid à toutes deux, elles défaisaient leurs mains avec enthousiasme. « Tu es trop obligeante !» s'écria Ferdine, qui recula en riant devant la pointe d'épingle dont sa petite compagne la menaçait. « Réponds à mes questions, mes beaux droits, et voyons si je réussirai à me mettre dans une condition d'esprit rationnelle et ratiocinante, comme dit Siméon. » « Sommes-nous réellement, toi et moi, pensionnaires à bonne grâce ?»« Et même ça m'ennuie un peu, fit May, car je serai la plus petite. Léa Gaillère dit qu'on m'enverra au lit quand il y aura des soirées. »« Avons-nous réellement traversé tout à l'heure une longue avenue de tilleuls et une terrasse et un morceau de pelouse dessiné à la craie ?»« C'est le long tennis round, fit May d'un accent un peu dédaigneux. » « On voit bien que tu n'as rien vu, Ferdine. »« Ça, c'est vrai. Tu me piloteras, toi qui as fait la moitié du tour du monde. Mais poursuivons. Cette malle, cette belle malle neuve tout à la mode, avec son contenu, cinq robes, des pantoufles à bouffettes, le collier de ma pauvre maman et ses épingles romaines, des tabliers brodés, des mouchoirs tout petits, un parapluie neuf, quatre paires de gants. Mais, Beaudroit, est-il absolument vrai que tout ça m'appartient ? Je le suppose, répondit May. On pourrait croire que de ta vie tu n'as eu une robe neuve. Je n'en ai jamais eu cinq à la fois. Il est vrai qu'elles ne sont pas neuves toutes les cinq. La verte est retournée et la robe de foulard gris à rayures roses a été portée autrefois par maman. J'aurais du plaisir à la mettre en souvenir d'elle. Voyons, May, petite créature prosaïque, dis-moi, une fois pour toutes, que je ne rêve pas. Laisse-moi compter mes chemises, implora May. Maman ne les compte jamais quand nous emballons. Elle dit que ça lui casse la tête, mais moi, je n'aime pas à perdre mes affaires. Une chambre idéale, reprenait Ferdine, qui ne pouvait tenir en place. Des rideaux roses, ou bien est-ce moi qui les vois en rose ? Mais, Beaudroit, les rideaux sont-ils roses ? Rose et blanc. Tu m'ennuies à la fin. J'aimerais presque autant partager la chambre d'une Allemande et avoir à lui dire le nom de tous les objets. Ferdine partit d'un gai éclat de rire, saisit May par les épaules et la fit danser tout autour de leur malle. Puis elle retomba dans son extase. Un lavabo de marbre blanc. C'est toujours poétique, le marbre blanc, même en lavabo. Et par la fenêtre, une échappée sur les tilleuls, sur la campagne. Et puis, des leçons de toute espèce. Des leçons par la fenêtre, faisait May ironiquement. Oh, si tu crois que je vais soigner mon style et faire des alinéas, non, non, pas aujourd'hui. Le temps est beau, les alinéas peuvent aller se promener. Il existe donc une chose qui s'appelle être trop, trop, trop heureuse. Je ne le croyais pas jusqu'ici, mais elle y est. Je la sens, je l'ai dans le corps. Mais Beaudroit, donne-moi une chaise. Il faut absolument que je tâche de me calmer. Si quelqu'un de respectable entrait ici, on me renverrait instantanément et mon pauvre papa n'aurait plus qu'à me mettre en pension dans l'heureux village des Mouchettes, patrie de Mademoiselle Caton. Ce qui me fait penser au règlement, s'écria Ferdine, sautant de sa chaise comme un bouchon et tombant devant sa malle où elle plongea les mains. « Mademoiselle Caton m'a obligée à emporter son règlement en souvenir d'elle. Comme si je risquais de l'oublier, cette chère vieille brosse de crin. Un magnifique règlement tout neuf sur une feuille de carton, et c'est le commis de la poste qui l'a écrit en ronde avec des majuscules rouges. Ce qu'il a dû rire, ce commis, en copiant la loi de Caton. Jamais, jamais, je n'en finirai de mes déballages si je mène cette conduite insensée. » May trottinait sans mot dire, alerte comme une fourmi, comptant ses mouchoirs et son linge, secouant ses jolies robes pour les défriper. Déjà, elle s'était approprié la plus grande commode et la table de toilette dont le miroir, voisin de la fenêtre, était le mieux éclairé. Elle déposait dans les tiroirs, côte à côte, avec précaution, de petits paquets noués d'une fave rose, de petits cartons blancs marqués à son chiffre, un buvard fermé à clé, une cassette de lac fermée à clé, un nécessaire tout en nacre, muni également d'un bijou de serrure, et toutes ces petites clés pendaient ensemble à un mince bracelet d'argent que May cachait sous ses mouchoirs dans un sachet parfumé. May Beaudroit était une jeune demoiselle extrêmement soigneuse, presque trop, de ses petits trésors et de ses petits secrets. « Mais regarde donc cette armoire peinte en rose à l'intérieur !» faisait Ferdine, qui poursuivait son voyage d'émerveillement autour de la chambre. « Ma bonne prétendait que dans les villes, on n'a pas d'armoire. Pauvre Caton, elle pleurait en cataracte quand la diligence est partie. Je frémis à l'idée du vide affreux qu'elle éprouve sans doute, n'ayant plus personne à tourmenter, sous prétexte de faire son éducation. Et papa, mon cher papa si bon, mais qui ne dit pas ce qu'il sent, je crois bien qu'il aura un peu de chagrin aussi dans mon absence. Je me trouve abominablement égoïste, sais-tu bien, mais... Je suis folle de joie dans ce paradis de mes rêves, et papa est triste peut-être à la maison. Je lui écrirai dès ce soir, et je le remercierai tant. Oh, qu'ai-je fait pour être si heureuse? Tiens, je vais m'asseoir et compter mes bonheurs. On assure que l'arithmétique est calmante. » Elle se jeta près de la fenêtre dans un joli fauteuil d'osier garni de perles à ramages roses et, la tête renversée, les coudes sur les bras du fauteuil, les pieds au bord d'une chaise voisine, elle commença son énumération. « Il y en a trop, il y en a trop. Je demande qu'on m'ôte quelque chose. Un voyage en diligence et en chemin de fer, mon premier voyage, des robes neuves, un lavabo de marbre, un parapluie neuf, Siméon tout près de nous. Oh, ce cher vieux Siméon! Et je l'aurai entièrement à moi pendant les vacances de Noël et il me conduira dans les musées. Plus de Mademoiselle Caton, plus de broderie anglaise, des leçons, même des leçons de musique, papa le permet. Et les usages du monde. Tiens, mais voilà ce qui m'intrigue le plus, les usages du monde. Je n'ai pas la moindre idée de ce que cela peut être. Oh, dit May d'un air entendu, c'est par exemple entrer dans un salon. Je m'imaginais qu'on entre dans un salon comme on entre dans une grange en ouvrant la porte. Marcher, saluer, poursuivit la petite fille. Tendre la main, verser du thé en relevant le petit doigt et faire semblant de ne pas voir les gens mal habillés quand même on les voit parfaitement. Embrasser les dames qu'on n'aime pas comme si on les aimait beaucoup, c'est ça les usages du monde. » Un léger coup frappé à la porte interrompit cette dissertation. Ferdine tourna la tête, mais ferma bien vite un tiroir. C'était Léa Gaillère qui entrait d'un petit pas glissant, avec une grâce et une discrétion un peu affectées. « Je ne vous dérange pas, Mademoiselle Octavie vient de me dire votre arrivée, et je suis montée aussitôt pour renouveler notre connaissance d'il y a quelques semaines. Vous allez bien, Ferdine? Et Monsieur Siméon, a-t-il voyagé avec vous? Vous savez qu'il est recommandé à papa et maman l'invitera à venir à la maison. Maman le trouve très bien, mes sœurs également. Jeanne parlera anglais avec lui s'il le désire. » En même temps, de ses yeux gris très fureteurs, Léa fouillait les malles, les tiroirs, l'armoire ouverte. « Vous n'avez pas fini de déballer? Je vous donnerai volontiers un coup de main » fit-elle en se penchant pour tâter l'étoffe soyeuse d'une large ceinture hindoue à demi déployée. « Apportez-vous beaucoup de jolies affaires ?» Cette jeune fille avait une voix caressante, d'un timbre étudié qui montait à la fin de chaque phrase, un petit rire insignifiant mais argentin et quelque chose de menu, d'un peu précieux, dans toute sa personne et ses manières. Sa taille était d'une finesse exagérée, son cou long et blanc, sa figure palote, chiffonnée. Léa était très fière de sa pâleur qu'elle entretenait soigneusement. Elle était fière aussi du cachet particulier que donnait à sa physionomie une chevelure blonde, presque incolore, très mousseuse, soufflée et légère comme un nuage sur le front. Elle parlait souvent des cheveux des autres personnes pour attirer l'attention sur les siens. « Non, merci, » fit May précipitamment. « J'aime mieux tout arranger moi-même. Il faut tant de choses pour l'hiver, reprit Léa, tenant à bras tendus la robe retournée que Ferdine comptait porter le dimanche. L'hiver est une saison ruineuse. Les toilettes de ville, les fourrures, et puis tant de colifichets pour les soirées. Vous avez un éventail, Ferdine ?
Je ne saurais pas m'en servir, répondit Ferdine.
Allons donc, cela viendra tout naturellement. Moi, j'ai deux éventails, l'un bleu pailleté, l'autre à dessin japonais. Je vous les montrerai. Voilà une jolie étoffe, fit-elle, indiquant du doigt la robe de foulard gris rayée de rose. Mais le gris vous sera-t-il ? Vous êtes si brune. Si c'est un hâle de campagne, cela passera cet hiver. Si c'est un brun nature, je vous conseillerai de porter du rouge ou du jaune. Les nuances fines, vous devriez les éviter. Ferdine, sans répondre, se hâtait maintenant de vider sa malle et remplissait les rayons, les tiroirs, un peu au hasard. Léa s'était assise sans qu'on l'y invitât, regardant à droite et à gauche, disant son mot sur tous les détails de l'installation.
« Vous serez un peu ahuri les premiers temps, » faisait-elle avec condescendance. « Le pensionnat est élégant, on surveille de très près nos manières. Plusieurs des pensionnaires vous étonneront par leur genre. »
« Il y a longtemps que vous êtes à Bonne-Grâce ?» demanda Ferdine brusquement.
« Mais non, j'entre aujourd'hui comme vous, » dit Léa qui rougit un peu.
« Mes sœurs m'ont mise au courant. Et puis, je ne suis pas à la campagne, moi. Tenez, je puis vous dire que la coupe de votre robe de foulard est arriérée d'un an au moins. Des manches à la nonne, cela ne se porte plus. Pour moi, rien ne me met mal à l'aise comme une robe démodée. » « C'est dommage, vraiment, un si joli foulard. Vous ferez bien de consulter la couturière qui vient chaque mois faire une revue des costumes. « Où vous chaussez-vous » poursuivit-elle, avançant avec complaisance la pointe d'un pied fort étroit, élégamment logée dans une petite pantoufle vernie.
« Ah, je vois, oui, des chaussures de village, très solides assurément. Dans 3 semaines, vous n'en voudrez plus, je vous le prédis. »
« Parlez-nous un peu des professeurs et des leçons, » dit Ferdine, « ce sera plus intéressant. »«
Vous trouvez ? Mademoiselle Audembert a les meilleurs professeurs de la ville. Je les connais car plusieurs sont amis de papa et viennent à la maison. Ils sont tous mariés, ce qui les rend ennuyeux. Garantis incombustibles, comme dit ma sœur Clara. Vous savez que Clara a le genre américain ? Très flirte, vous savez, très original et gamin. » Pour autant qu'elle ose, car papa la tient sévèrement. Jeanne, c'est le genre anglais, correct, glacial, et par moments, ça l'ennuie joliment d'avoir choisi ce genre. Pourquoi n'ont-elles pas tout simplement le genre de leur pays et de leur ville? Ou mieux encore, leur genre à elles? Demanda Ferdine qui désirait s'instruire.
Oh, banal! Vous avez une chevelure étonnante, Ferdine, savez-vous bien? Fit Léa, allongeant ses doigts vers les épaisses nattes sombres qu'un ruban noir nouait sur la nuque de Ferdine et qui tombait plus bas que sa ceinture.
« Oh, vous pouvez tâter !» dit Ferdine en riant. « Elles sont bien à moi !»«
On ne sait jamais. Il y avait ici, l'année dernière, une jeune Mexicaine dont les cheveux ont fait fureur tout d'abord. Un peu gros, comme les vôtres, et d'une teinte à cajou plutôt commune, mais des nattes grosses comme le bras. » Eh bien, elle les décrochait chaque soir. Quand elle se vit découverte, elle partit. Ne vous fâchez pas, Ferdine, je vois bien que vos cheveux tiennent. Mais c'est égal, il y a tant de trucs pour grossir des nattes.
Je n'en connais aucun, dit Ferdine très rouge. Vous n'avez qu'à venir ce soir quand je brosserai mes cheveux.
Non, il nous est défendu de nous visiter le soir dans nos chambres. « Je suppose que M. Siméon admire beaucoup vos nattes. »«
Je ne crois pas qu'il en sache même la couleur, » dit Ferdine sèchement.
« On le dit cependant, grand observateur de la nature. Mais si vous aviez le choix, ne préféreriez-vous pas des cheveux blonds, comme les miens, par exemple ? Les noirs ne sont plus du tout à la mode. »
Si Ferdine avait déjà connu les usages du monde, elle eût fait à Léa un compliment sur ses cheveux. Au lieu de quoi, elle lui déclara tout nettement que ce genre de conversation lui semblait insipide. Parler chaussures comme des cordonniers et cheveux comme des coiffeurs n'est pas élégant du tout, quoique vous paraissiez tenir beaucoup à l'élégance. » Léa sourit, haussa les épaules et, après avoir vainement cherché un autre sujet d'entretien, se retira. « Je n'ai plus envie de rire, » dit Ferdine, achevant précipitamment son déballage. « Je suis presque de mauvaise humeur. » « Léa Gaillère est une poseuse, » dit May, de son ton sentencieux et définitif. « Cependant, on peut apprendre beaucoup en causant avec elle. Je la questionnerai sur la mode et le genre, et les pensionnaires, et les eaux pour le teint. Je suis sûre qu'elle connaît des eaux pour le teint. Et je pourrai toujours me moquer d'elle par derrière pour me venger. Si chacun lui ressemble dans cette maison, » déclara Ferdine, qui, d'un coup sec, ferma le dernier tiroir, « je demande à repartir au plus vite. Cependant, j'attendrai jusqu'à demain soir pour me former une opinion. »